cette approche de minimalisme est née du fait qu'il y avait dans les cosmétiques beaucoup d'ingrédients que les gens ne comprenaient pas, beaucoup d'ingrédients qui ont fait polémique. Et donc, ingrédient est devenu risque de danger. Donc, du coup, de manière assez naturelle, le courant qui veut diminuer le risque par rapport aux ingrédients tend à limiter le nombre d'ingrédients. Mais ce qui paraît normal. Néanmoins, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Certes, il faut limiter les ingrédients polémiques, les ingrédients qui ne servent à rien ou qui sont préjudiciables à l'environnement. Mais faut-il pour autant limiter les bons ingrédients pour la peau? Et je ne le crois pas.
Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. Aujourd'hui, je reçois Anne-Marie Gabellica, la fondatrice d'Olution. Anne-Marie a travaillé plusieurs années en cosmétique avant de lancer sa marque en 2013. Loin des dictats du marketing, son approche formulatoire a certainement semblé radicale pour l'époque. Pourtant, elle s'avère pleine de bon sens à l'heure où l'on s'alarme du réchauffement climatique, de la pollution et de l'épuisement des ressources naturelles. On a donc parlé de la jeunesse d'Olution, de la philosophie au cœur de son projet, d'ingrédients, mais également des impacts à la fois écologiques, économiques et climatiques de l'industrie de la beauté. J'ai trouvé cet entretien vraiment passionnant. Que vous soyez consommateur ou entrepreneur, les problématiques soulevées ne vous laisseront pas indifférents, j'en suis certaine. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster.
Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Chantal.
Qui es-tu ?
Alors, moi, je suis déjà la maman de deux petits-enfants et la créatrice d'Olution, une marque 100% naturelle qui s'inspire de l'alimentation pour apporter une réponse plus personnalisée à chacun.
Ok. Et alors, tu as travaillé pour des marques plutôt conventionnelles à une certaine époque.
Oui.
Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ta propre marque ?
Écoute, ça a été, j'ai eu différents détonateurs dans ma vie. Le premier, c'était de dire, l'industrie cosmétique, quand moi je me suis lancée vraiment, quand j'ai débuté Olution, c'était 2010, tu vois, c'était à l'heure où on enregistre, il y a 12 ans. Oui. C'était une industrie où le naturel clairement faisait vendre, était très attractif, et pour autant, il n'y avait pas de normes pour que les produits soient aussi naturels que le marketing le laissait entendre. C'est-à-dire que n'importe qui pouvait dire mon produit est naturel, mais au final, ça n'impliquait rien en termes de pourcentage d'ingrédients, par exemple, dans la formule. Et ça, ça a été un de mes premiers détonateurs où je me suis dit, mais tiens, si l'on parle du naturel, il faut au tout le moins en proposer une grosse partie dans la formule, comme le fait la cosmétique biologique certifiée avec 95% minimum naturel. Et puis moi, je me suis dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas du 100% naturel ? Parce que si vraiment le naturel intéresse, rassure, fait du bien, et en plus, comme beaucoup le savent, est très efficace sur la peau, autant aller dans une démarche très absolue là-dessus, et donc le 100% naturel. Donc ma première, si tu veux, envie venait d'essayer de repousser un peu cette limite que je voyais. La deuxième, c'était, moi j'ai plutôt un parcours scientifique, je suis ingénieur, j'ai beaucoup travaillé sur la peau, j'ai travaillé dans des marques dermatologiques, donc j'avais une très bonne connaissance technique à la fois de la peau et des ingrédients, et je me suis rendu compte de quelque chose de complètement dingue, c'est que toute l'industrie cosmétique vit dans un paradigme, dans un modèle où c'est l'ingrédient phare, le storytelling de cet ingrédient incroyable, de ceci, de cela, etc., qui est vraiment miraculeux. Et il va y avoir comme ça des vagues. On a des modes sur les ingrédients. Et moi, ça m'a toujours laissé de marbre. Et en tant que scientifique, je ne crois pas vraiment au miracle. Pour moi, un ingrédient aussi, je dirais, intéressant soit-il, ne saurait être parfait, se suffire à lui-même. C'est comme si je vous disais, la pomme, c'est un excellent fruit. Maintenant, nous n'allons manger que de la pomme.
Oui.
On sait tous, c'est intuitif. En réalité, ce qui fait la bonne santé, l'équilibre, c'est la diversité, de manière générale.
Ouais.
Et je trouvais qu'on n'appliquait pas ce principe suffisamment en cosmétique et que la peau, du coup, qui est ce plus grand organe de notre corps, se trouvait face à des formules, à mon sens, de nature plus à la carencer qu'à l'équilibrer. Et donc, cette quête pour moi, c'était de rendre justice à la peau. Et Olution, c'est ça dans notre philosophie, c'est la peau d'abord. Moi, je ne cherche pas à faire le marketing d'un ingrédient, je ne vais pas chercher à faire un storytelling X ou Y, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est votre peau à vous. Et comment je pourrais au quotidien faire en sorte qu'avec des formules beaucoup plus riches, beaucoup plus variées, elle puisse puiser sur mesure ce dont elle a besoin là-dedans. Et ça, la puissance aussi de cette idée-là, elle permet non seulement de traiter l'unicité de notre peau à chacun, mais aussi son évolution. Parce qu'au final, en réalité, jamais on ne peut savoir. C'est comme dans l'alimentation. Peut-être qu'aujourd'hui, là, vous avez besoin de vitamine B9, mais vous ne le savez pas. Mais en mangeant vraiment une salade hyper complète et variée, et il se trouve, par exemple, vous avez mis dans votre salade un peu de noisette, et ben, en fait, il y a plein de vitamine B9 dans la noisette, vous ne le saviez pas. Mais voilà, c'est le bon sens. En fait, vous allez optimiser les chances d'avoir ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Et ça, ce principe-là, c'est vouloir casser ce modèle actuel de l'ingrédient roi au lieu de concentrer nos efforts sur la peau, c'est la peau qui est reine pour la cosmétique et pas l'ingrédient. Donc moi, je voulais complètement bousculer ce modèle, complètement renverser ce qui se faisait là-dessus. Donc ça, c'était vraiment la deuxième envie. Et la troisième, c'était donner à la cosmétique une responsabilité sociétale et environnementale beaucoup plus importante. Et c'est ce qui m'a amené à faire, on en pourra en parler, de l'éco-conception, différentes démarches, notamment bannir les dérivés d'huile de palme qui sont omniprésents en cosmétique, et m'engager aussi dans la consigne des produits pour la réutilisation de ceux-ci et limiter les déchets. Mais voilà, tout ça, en fait, c'était vraiment la quête du naturel à 100%. L'idée d'apporter plus à la peau par des compositions ultra variées et aussi, bien entendu, créer les cosmétiques du 21e siècle au sens où, pour moi, aujourd'hui, une entreprise doit produire un service, évidemment, à ses clients, mais doit aussi produire un service à la nature, un service plus globalement à l'humanité et ne pas uniquement être dans la prédation des ressources et
dans le mercantile, quoi.
Dans le mercantile constant.
Et comment tu as travaillé sur Olution? Je crois que ça t'a pris 3 ans pour développer les premières formules.
Oui, tout à fait. En fait, ça a été très long. Moi, j'ai commencé toute seule, avec mes propres économies. Et aujourd'hui, en fait, Olution est toujours, on va dire, une entreprise totalement indépendante. C'est l'Indies au sens le plus...
La vraie de vraie, la pure et dure.
Pure et dure, je dirais. Et puis oui, ça a pris 3 ans parce que, comme je te le disais, des formules 100% naturelles, mais qui soient agréables à utiliser, ce n'a pas été une mince affaire parce que on pouvait faire du 100% naturel, mais collant, épais, etc.
Ouais, au niveau formule, c'était atroce.
Et voilà, et notamment pour les peaux mixtes à grasse. J'en suis une, et je ne pouvais pas utiliser certaines préparations, on va dire, plus que des vraies formules cosmétiques, qui étaient trop épaisses. Donc déjà, premier challenge en termes de formulation, 100% naturel, mais vraiment pas de déperdition en termes de galénique. Et en plus... je m'autorise même pas des ingrédients naturels d'origine naturelle que je n'estime pas assez nobles, comme les huiles estérifiées hydrogénées. Et ça, d'accord, quasiment personne ne le fait. Il faut être aussi un petit peu, on va dire, un petit peu poussé dans son approche pour le faire. Pourquoi ? Parce que c'est des ingrédients qui aident beaucoup, notamment les huiles estérifiées. C'est souvent en haut de tête, liste des ingrédients, parce qu'on dit que ce sont des huiles entre guillemets sèches, que ça va donner une super sensorialité aux formules. Et moi, j'ai dit, bah non, moi, je veux que des vraies huiles végétales, première pression à froid. Et donc, on m'a dit, attention, mais non, Anne-Marie, ça va être gras, tes produits, etc. Et Voilà sur quoi il fallait travailler d'une part. Et puis en plus, j'ai retiré les dérivés d'huile de palme. Tout c'était considéré comme impossible par toute l'industrie. Et pour autant, quelqu'un qui est totalement indépendant a réussi à le faire. Donc aujourd'hui, tout le monde devrait le faire. Et ça devrait être la norme. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment un ingrédient qui a des impacts très néfastes sur la biodiversité, évidemment la déforestation, et in fine sur le dérèglement climatique. Donc est-ce qu'on peut autoriser cela pour des cosmétiques ? J'en doute.
Effectivement. Et alors, niveau listinky, justement, on ne peut pas dire que tu sois dans la frugalité. Hein. Ton approche est plutôt contre-intuitive, je dirais, parce que tu prêches vraiment pas le 10 actifs maximum, etc.
Alors non, ce n'est pas du tout notre approche. Pourquoi ? Pourquoi on en est arrivé à cette approche plus de minimalisme ? Cette approche de minimalisme est née du fait qu'il y avait dans les cosmétiques beaucoup d'ingrédients que les gens ne comprenaient pas, beaucoup d'ingrédients qui ont fait polémique. Et donc, ingrédient est devenu risque de danger. Donc, du coup, de manière assez naturelle, le courant qui veut diminuer le risque par rapport aux ingrédients tend à limiter le nombre d'ingrédients. ce qui paraît normal. Néanmoins, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Certes, il faut limiter les ingrédients polémiques, les ingrédients qui ne servent à rien ou qui sont préjudiciables à l'environnement. Mais faut-il pour autant limiter les bons ingrédients pour la peau ? Et je ne le crois pas. Mmh. Et ça, c'est vraiment la conviction d'Olution. C'est une conviction, comme tu le disais, totalement à contre-courant. Ouais. Donc nous, nous sommes des minimalistes de tous ces ingrédients qu'on appelle les excipients, qui ne sont pas actifs pour la peau, mais on est quand même obligé de mettre, par exemple, de l'émulsionnant pour faire tenir une formule. Voilà, c'est, on est obligé, mais on va tout limiter. Et par contre, on va maximaliser tout ce qui est bon, efficace et vraiment bénéfique pour la peau. Et ça, c'est vraiment la vision d'Olution qui est très, très différente. Et qui vraiment procède aussi de cette philosophie que la diversité fait l'équilibre, une philosophie que la nature nous enseigne depuis 3,8 milliards d'années que la vie existe, parce qu'elle s'est adaptée partout, parce qu'elle a réussi à cette capacité de se diversifier énormément.
C'est ça.
Donc, c'est ça qui est formidable. Donc, tirons parti de l'enseignement de la nature. D'où le nom Olution.
Oui.
Parce que tu vois, Olution, ces deux O qu'on a au début, ça représente le signe mathématique de l'infini.
Oui.
Et en réalité, dans la nature, tout fonctionne en cycle fermé, à l'infini.
Rien
il n'y a pas
perd.
De déperdition. Les déchets sont une invention humaine. Et je me suis toujours dit, dans une idée un peu biomimétique, qu'il fallait s'adapter, enfin de s'inspirer de la nature pour trouver les solutions à nos problèmes du 21e siècle. Mmh. Et c'est pour ça qu'existe Olution. C'est vraiment, on veut vraiment s'inspirer de la nature, qui est notre maître, pour apporter à la peau de chacun une réponse plus personnalisée et aussi plus éthique.
Mmh. Et alors, tes actifs sont produits en circuit court. Peux-tu nous expliquer le circuit, en fait ?
Oui, alors, la plupart de nos actifs sont français. Il y a certains actifs, par exemple, le beurre de karité que je source au Bénin auprès de la coopérative montée par Carole Tawema.
Oui, qu'on a reçu.
Voilà, exactement, et Gladys, sa sœur, donc Carétique. Mais de manière générale, on cultive en France. Ce que l'on fait, et ce que peu de gens savent, c'est qu'on fait de l'extraction des ingrédients le jour même de la cueillette. C'est-à-dire qu'on vient vraiment avec, imaginez des grosses, on va dire des comme des dames Jeanne, voilà, en verre.
Oui.
On va commencer cette extraction-là pour éviter toutes les dégradations enzymatiques qui peuvent avoir lieu pendant le transport. Donc, on va vraiment recueillir le maximum, le meilleur de la plante le plus rapidement possible tant
D'accord.
qu'elle est fraîche.
Okay.
Donc ça, c'est pour vraiment améliorer encore la qualité de nos actifs. Donc ça, c'est ça fait partie aussi de notre philosophie, c'est le naturel, des ingrédients nobles et des ingrédients bien travaillés, le plus frais possible.
Ok. Alors, on va parler conservation, parce que tu n'utilises même pas les conservateurs autorisés par Cosmé Bio. Pourquoi tu as fait ce choix et comment tu procèdes alors ?
Oui, alors, excellent. Merci beaucoup pour cette question, parce que c'était une question centrale dans les débuts d'Olution pour moi. En fait, quand je me suis dit, on va faire du 100% naturel, je me suis dit, du coup, je vais utiliser des conservateurs 100% naturels. Et là, je vois que, en fait, non, les conservateurs, même autorisés en bio, sont certes des molécules tout à fait vraiment inoffensives. Il n'y a rien à dire de ce point de vue-là.
Ouais.
Elles sont, je n'ai rien à dire, mais elles sont néanmoins synthétiques. Et je me suis dit, ah non, c'est dommage. Moi, je suis partie pour du 100%. Donc, je me suis dit, et si je développais un système de conservation naturelle qui ne repose pas sur l'alcool ? Parce qu'il y avait aussi cette possibilité. Mais du coup, tu fais des formules par ricochet beaucoup plus grasses pour compenser le côté desséchant d'alcool à trop de doses. Donc, pour éviter d'avoir des formules trop épaisses, je me suis dit, on va essayer de développer un système conservateur totalement naturel. Et donc voilà, je me suis lancée dans ce projet-là. J'ai été appuyée à l'époque, ça ne s'appelle pas encore, mais la BPI aujourd'hui, sur ce type de projet-là, pour justement essayer de repousser cette limite que je trouvais vraiment dommage. Parce que pourquoi pas, quand on est 95 ou 98, on est tellement proche.
Bah,
je me dis, il faut y aller.
Ouais,
Donc voilà, ça a fait partie aussi des grosses innovations d'Olution de nos débuts.
Donc du coup, c'est quoi ? C'est un système de conservation qui est dans le packaging ?
Alors non, c'est en fait un complexe, notamment à base de champignons fermentés, etc. Donc on a vraiment travaillé cet ingrédient et ça n'a pas été très facile parce que ce qui permet pour tester la conservation d'un produit, c'est de faire ce qu'on appelle les challenge tests.
Ouais.
Donc tu vas inoculer différentes souches, on va dire bactériennes, et tu vas voir comment le produit réagit ou s'il réagit bien ou pas. Donc ça, ce challenge test, c'est un peu la, le feu vert ou oui. non, ou le feu rouge pour sortir ta formule, eh bien, voilà, nous en avons fait un nombre incalculable avant de trouver vraiment ouais, la bonne formule. Et après, du coup, quand on a commencé avec 5 soins pour le visage. Ils ont été tous conservés avec ce même principe-là.
Ok, d'accord. Et est-ce que selon toi, les labels sont dépassés aujourd'hui, tout ce qui est Cosmé, Bio, Cosmos, etc.
Je ne le crois pas. Moi, je dis souvent, vous avez deux approches en tant que consommateur. C'est soit de rechercher des marques qui sont 100% naturelles, comme ça vous vous assurez que... Voilà, mais qui indiquent vraiment 100% naturelles. Ouais. Pas juste une marque avec de l'aloe vera bio. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quels sont les autres ingrédients ? Donc vraiment, une marque qui indique très clairement sur ses packagings 100% d'origine naturelle. Ça, c'est la première chose. Ou alors, l'autre très bonne façon, si vous n'êtes pas trop sûr, c'est de rechercher le label, voilà, Cosmé Bio, la mention Nature et Progrès, ouais. la mention aussi Slow Cosmétique, par exemple. Tout ça sont des gages vraiment pour les consommateurs qui restent, à mon sens, tout à fait pertinents. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a différentes approches. Aujourd'hui, on peut noter quand même la montée en puissance de marques qui s'autoproclament clean. Alors, effectivement, la clean beauty, c'est comme la beauté naturelle, d'une certaine façon, des années d'il y a 10 ans. Beauté naturelle, on connaît beaucoup de grandes marques qui se disent naturelles, on sait très bien que c'est pas du tout naturel. Donc, en réalité, aujourd'hui, clean beauty, c'est à peu près le même fourre-tout, pour être très clair. Donc, moi, j'ai une approche assez pragmatique là-dessus, et je dis, voilà, faut regarder la liste d'ingrédients. Quand on ne sait pas, eh bien, il y a des sources d'informations, évidemment, la presse. Nous, on a, dès le début, moi j'ai écrit des dizaines d'articles sur le blog de Lution. Et le blog de Lution aujourd'hui, c'est un des blogs en France beauté qui est le plus lu, plus respecté pour le sérieux de l'information et la pédagogie aussi qu'on cherche à avoir. Pourquoi ? Parce que l'information, à mon sens, et c'est en ce sens-là aussi que j'ai fait Lution, c'est le pouvoir. Mmh. Et donc, notamment je me disais, moi, tout seul, je ne peux pas révolutionner cette industrie-là. Je dois m'aider de tout à chacun. Et c'est en expliquant à tout à chacun ce que moi, je sais et qui me révolte, qu'au final, on provoquera un changement plus massif. Et donc, c'est en ce sens-là que, tout de suite, j'ai commencé à énormément publier sur le web.
Mais est-ce que tu penses que... Je reviens toujours à mes histoires de labels, qui sont assez avancés, tu vois, sur tout ce qui est évolution cosmétique, sur la question environnementale, sociétale. Est-ce qu'ils sont pas un peu à la traîne ?
Je dirais qu'ils doivent effectivement se mettre à la page. Notamment, par exemple, sur certains ingrédients, comme les sulfates. Moi, ça fait partie, le cahier des charges Lution est le plus exigeant au monde. Nous, on s'est refusé, je t'ai expliqué, les huiles estérifiées, hydrogénées, tous les ingrédients synthétiques, évidemment, mais également les sulfates. Je n'utilise pas non plus de SCI, c'est pour ça que je n'ai pas sorti de gamme solide pour le moment. Ça, il faut bien dire que c'est vraiment pas un ingrédient que l'on souhaite. Et donc, au final, je pense que ces labels doivent continuer de revoir leur cahier des charges et de monter leur niveau d'exigence parce que la société avance, il y a des innovations, il faut quelque part, ça fait partie de la vie, se mettre bien à sûr, jour, se mettre sûr. À la page, oui. C'est tout à fait naturel.
Quelque chose qui a été créé il y a 20 ans.
Exactement, peut pas être, en 2003, est moins pertinent sur certains sujets, et les sujets notamment de dérivés d'huile de palme.
Ouais.
C'est vrai que j'entends depuis mes débuts parler de commission sur ce sujet-là, dans les différentes instances, mais au final, oui, chaque seconde, on perd un terrain de foot. Ouais. La commission, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a, entre guillemets, entre une réalité très crue, très brutale, et nous, une réaction qui peut être un peu trop, on va dire, lente, il y a un décalage flagrant.
Bien sûr. Alors, justement, l'huile de palme.
Oui.
Pourquoi et comment cette huile est devenue indispensable et presque indissociable de l'industrie cosmétique, en fait ?
Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a deux ingrédients qui sont la source de on va dire, la plupart de nos formules cosmétiques. Il y a le pétrole et il y a l'huile de palme. Alors, c'est très intéressant, le pétrole, donc c'est plutôt, évidemment, tout ce qui est conventionnel, ça va donner les silicones, oui. Voilà. Et puis, dans le naturel, ce qui va constituer la base des formules, ça va être de l'huile de palme modifiée. Donc, alors, bien entendu, l'huile de palme utilisée traditionnellement par des villageois, donc cette belle huile de palme couleur orange éclatante, je n'ai aucun problème puisque c'est une utilisation traditionnelle locale, bien entendu. En revanche, ce qui s'est passé depuis 30 ans, c'est que l'industrie s'est emparée de cet ingrédient parce que c'est vrai que l'huile de palme a un très fort rendement, donc c'est vraiment pas cher. Et donc, finalement, tous les émulsionnants, les fameuses huiles estérifiées dont je vous parlais sont dérivées d'huile de palme, etc., etc. Et tout est dans le squelette de beaucoup des molécules qu'on trouve dans les, dans les cosmétiques. Il y a de l'huile de palme. Même, par exemple, dans le fameux rétinol, il y a des rétinols qui sont complexés avec des acides gras d'huile de palme. Bon. Ça pose vraiment une question de fond, aussi bien pour le pétrole que pour l'huile de palme, et qui rejoint toute la philosophie de Lucian. Quand on se repose sur un ingrédient, que ce soit le pétrole ou la palme, et donc on est vraiment dans une approche d'homogénéité versus la diversité, c'est là où on arrive toujours à des catastrophes. Pourquoi ? Parce que notamment dans le cas, on sait, le pétrole et les catastrophes à la fois écologiques, mais économiques et politiques que cela provoque dans le monde. Mmh. Et on va mieux découvrir celle que provoque l'huile de palme. Puisque actuellement, la déforestation massive a lieu, on va dire, à vitesse galopante en Malaisie, en Indonésie, de plus en plus aussi en Afrique.
Ouais.
Également dans certains territoires d'Amérique du Sud, mais... En tous les cas, cela va non seulement affecter la biodiversité. Pourquoi ? Parce que déjà, quand vous transformez une forêt en palmeraie, vous brûlez tout d'abord.
Ouais, c'est ça.
D'accord ?
Bien sûr, ouais.
Mais quand vous brûlez tout, vous brûlez pas que les arbres, mais tous les animaux qui sont
c'est
là. Mmh. Et nous, dans notre philosophie où nos ingrédients sont 100% véganes, donc on n'utilise que des ingrédients végétaux, nous, on se dit aussi que dans le prolongement de cette philosophie, je ne veux pas utiliser d'ingrédients qui causent une souffrance animale, même s'il est d'origine naturelle. Et donc, pour moi, l'huile de palme et ses dérivés qui sont omniprésents en cosmétique, dans tous vos produits, vous avez des dérivés d'huile de palme, dès votre gel douche du matin, vous déforestez, sans le savoir, je trouve ça dommage. Dans cette idée-là, on refuse aussi ces ingrédients-là, parce que ça provoque une souffrance animale, ça détériore la biodiversité. La biodiversité, c'est la source de nos médicaments de demain, donc c'est quand même un des trésors de l'humanité. Et puis, perdre des arbres, c'est profondément modifier le climat.
Ouais, bien sûr.
Et donc, ce n'est pas un problème pour l'Indonésie et la Malaisie seulement, ça va être un problème pour nous tous.
Bien sûr.
Donc, est-ce que l'on peut admettre d'être à l'origine de tels problèmes parce qu'on utilise tout simplement une crème ou un gel douche ou un gel crème de rasage ou du déodorant, c'est absurde. Donc c'est pour ça que Olution, dès le début, nous œuvrons à éveiller les consciences sur ce problème.
Et est-ce qu'il existe des matières de substitution ou est-ce qu'il faut tout simplement arrêter de produire, de formuler avec cet ingrédient ?
Alors oui, il faut arrêter parce que actuellement tous les dérivés d'huile de palme proviennent d'huile de palme qui n'est vraiment pas durable et toutes les, on va dire, campagnes marketing qui veulent nous faire croire qu'il y a de l'huile de palme durable sont du greenwashing pur et dur. Un reportage il y a quelques années sur France 5. Qui s'appelait huile de palme, une huile qui fait tache, montrait aller en caméra cachée dans une plantation censée être durable et une autre. En fait, c'était la même. C'est juste la même chose.
Une étiquette.
Il faut savoir aussi que les conditions dans lesquelles travaillent les ouvriers, parce que c'est vraiment comme ça qu'on peut les appeler sur ces genres de plantations, sont vraiment abominables pour leur santé. Et puis que les opposants à la déforestation et aux grands conglomérats qui ont des intérêts dans l'huile de palme meurent dans des conditions souvent inexpliquées. Donc c'est vrai que on voit vraiment tout un système qu'on ne doit pas nous cautionner. Alors la solution est beaucoup plus complexe que juste arrêter de l'huile de palme, parce que si on choisit une autre huile, mais qu'on base tout à nouveau sur cette autre huile, on aura le même problème. Donc, la vraie solution, c'est de changer à nouveau notre état d'esprit et de multiplier les sources naturelles, végétales, pour obtenir un certain type d'ingrédients. Et en fait, c'est ça. C'est ça la solution.
Ouais, toujours pareil, la diversité.
Diversité, encore une fois.
Et alors, la situation actuelle, tu sais, avec tous ces problèmes autour de certaines huiles, comme l'huile de tournesol, etc., les pénuries, est-ce que ça, ça ne va pas jouer, justement, entre guillemets, en faveur de l'huile de palme?
Alors, très certainement, malheureusement, c'est vrai que si nous n'avons plus d'huile de tournesol, en plus l'huile de tournesol est quand même assez importante dans cosmétiques naturels, hein, pour en formulation, donc ça peut avoir un impact à ce niveau-là. Il est encore difficile de mesurer à quel point, parce que on est, je dirais, à l'entrée de cette crise. Il va clairement falloir se reposer des questions sur notre utilisation des ressources naturelles. Peut-être que des reformulations devront être nécessaires. Ouais. Je pense que on est plusieurs à se rendre compte qu'il va falloir. Et la solution à cela, d'une certaine façon, et la meilleure des solutions à ce genre de crise mondiale, c'est la relocalisation. À nouveau, et on va à nouveau parler de cet équilibre, ce qu'on appelle aussi la résilience. Un système est plus résilient s'il est évidemment diversifié et si vous ne dépendez pas de plein de gens de plein d'endroits du monde, parce que dès qu'il y a un problème, y a un ouragan en Thaïlande, je me souviens, on n'avait plus de disque dur. Il y avait des choses. Ça devient complètement. C'est un monde un petit peu ubuesque.
Les joies de la mondialisation.
Exactement. Et donc, ça va forcer et ça va, je pense, ce type de crise, elles ont un aspect positif où elles vont finalement peut-être aussi récompenser des démarches plus locales d'approvisionnement. Et ça, c'est tout à fait souhaitable.
Toi, tu envisages effectivement. On a compris que tu n'utilisais pas l'huile de palme. Donc, tu n'y es pas. Mais si tu utilises aujourd'hui de l'huile de tournesol, par exemple, est-ce que tu envisages, par exemple, de reformuler certains produits ou carrément de les arrêter?
Le moment, moi, sur l'huile de tournesol, on en a encore à disposition. Mais c'est vrai que ce qui se passe en première partie, c'est la flambée. C'est la flambée, tout le coût des matières qui explose, etc. Donc là, je dirais qu'on est encore dans la phase, on va dire, d'absorption des coûts. L'avantage quand même de l'huile de tournesol, c'est qu'elle pousse de manière naturelle en France. Donc on peut tout à fait s'en sortir quand même bien, même si ça va, on va enclencher des coûts supplémentaires. Mais ce n'est pas
ingérable.
Ce n'est pas ingérable, pas du tout. Voilà.
T'en as un peu parlé, mais quand t'as vu arriver le clean et toutes ces indie brands, qu'est-ce que tu t'es dit?
Quand j'ai commencé Olution, je me suis dit j'ai envie de révolutionner cette industrie, d'élever vraiment les standards de l'industrie cosmétique et quelque part, c'est pour moi le sens de l'histoire, que cette industrie devienne de plus en plus clean et que toutes les marques se lancent et soient clean. Après, est-ce que toutes les démarches sont toujours parfaitement bien pensées? Et est-ce que certains n'utilisent pas cela pour des raisons, on va dire, purement commerciales? C'est tout à fait leur droit, je dirais. Nous sommes dans un pays libre et chacun entreprend comme il a envie de le faire. Mais là où moi, je me pose des questions, je me dis, c'est parfois dommage où je me dis, quitte à entreprendre, à créer quelque chose, une marque, autant que ça ne soit pas qu'un discours, mais qu'il y ait vraiment des vraies actions, un vrai parti pris, un vrai engagement, comme moi, je l'ai pris en me lançant toute seule. Deux plus gros budgets, c'était la R&D, on a compris, pour développer les formules pendant 3 ans, mais c'était aussi une étude d'éco-conception soutenue à l'époque par l'ADEME, l'Agence de l'environnement maîtrise de l'énergie. Et en fait, on a fait une analyse de cycle de vie, donc on a étudié l'impact, si tu veux, des produits. Avant même de les créer, on a fait différents scénarios et on a étudié l'impact des produits, de la culture des ingrédients, leur transport, l'utilisation par le client et jusqu'à la fin de vie. Et cela, au travers de 14 critères environnementaux, comme le réchauffement climatique, l'écotoxicité marine, l'eutrophisation des eaux douces, etc. etc. Donc cette approche, c'était pour moi, et quand je suis allée voir l'ADEME, j'aurais dit, je veux faire vraiment l'entreprise du 21e siècle, mais je veux être sûre que je ne prenne pas des initiatives qui soient au doigt mouillé. Oui. Parce que parfois, on croit bien faire et en réalité, la solution que l'on apporte est peut-être encore pire que ne rien faire. Donc, d'une certaine façon, on a vraiment étudié cela avec des ingénieurs spécialisés dans les analyses du cycle de vie. Et ça a permis vraiment à Holution d'être la marque qui a été récompensée dans l'année de son lancement par le ministre de l'écologie lui-même. Ce qui, je pense, n'arrive pas souvent à des marques de cosmétiques.
On est d'accord.
Parce que la démarche était encore une fois dans la globalité. Et on cherche le cycle. Et quand on veut agir et avoir de l'impact, ce n'est pas, il ne faut jamais regarder le petit bout de la lorgnette. Il faut toujours se poser la question de oui, je produis un produit cosmétique, mais on a même étudié, par exemple, le geste, avant d'utiliser la crème, les personnes vont utiliser de l'eau chaude et un détergent potentiellement pour se nettoyer. Donc, on a pris ça aussi en compte dans notre... Enfin, plein de choses. Ouais. Donc, il faut être complètement... holistique dans son approche.
Ouais, 360.
Ouais, 360. Et c'est ça que je trouve intéressant. Donc, encore une fois, pas d'effet d'annonce, des études et vraiment une approche beaucoup plus large.
D'accord. Et justement, au niveau packaging, comment tu te positionnes ?
Oui, alors le packaging, moi j'étais vraiment une idéaliste, je voulais qu'il n'y ait pas de packaging, je voulais alors, après j'ai cherché des packagings biodégradables, mais en réalité c'est un système qui quand tu ne peux pas biodégrader, en fait tu dois biodégrader dans des centrales, enfin entre guillemets des j'ai plus le terme en français, des facilities voilà, dans des complexes on va dire, vraiment liés à la biodégradation, donc ça ne marchait pas comme solution. J'ai essayé le rechargeable, mais les solutions que j'avais provenaient d'Asie et me demandait d'acheter 30 000, etc. Donc, quand tu te lances, évidemment, tu n'achètes pas 30 000 packaging. C'est pas possible. Et donc, j'ai statué avec les ingénieurs en éco-conception avec lesquels on a travaillé sur le lancement, sur du 100% plastique. C'est-à-dire que les pompes, tu sais, ce sont des flacons pompes. Petite pompe, pour l'actionner, c'est en général un ressort en métal.
Exact.
Et ils m'ont pointé du doigt que c'était ce problème, c'était que quand il y avait un ressort en métal, ça polluait la filière de recyclage plastique. Et donc là, j'ai trouvé en Allemagne une solution en fait avec une pompe 100% plastique elle-même, donc pour éviter la pollution de base. Donc ça, c'était la première moins mauvaise solution pour qu'Holution existe. Ensuite, dans une logique d'amélioration continue, je me suis dit que en tant que metteur sur le marché de déchets, ma responsabilité ne doit pas se limiter à l'adhésion à des éco-organismes, mais aller bien au-delà. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est bien facile de faire un chèque, mais si tu mets sur le marché un produit qui est totalement irrecyclable, par exemple, pense à nos fameuses briques de lait, etc. C'est du plastique avec de l'aluminium ensemble.
Avec de l'alu,
Est-ce que vous pensez que c'est recyclable ensemble ? Absolument pas. Pourtant, c'est présenté comme un pack
recyclable.
Voilà. Et donc, est-ce qu'un consommateur va séparer le carton de l'aluminium ?
Déjà, tu as du mal à lui faire mettre le le pack dans un...
Dans le
bon bac de tri.
Donc, c'est quand même... Et souvent, ce que je dis, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut démonter la pompe, en retirer le petit ressort ? C'est impossible. C'est ingérable. Donc, en réalité... les industriels ont une responsabilité de devoir vraiment penser leurs produits de sorte de faciliter le tri, de faciliter effectivement la recyclabilité et idéalement avant, parce que la recyclabilité c'est vraiment le dernier point. D'abord, il faut réduire nos packagings au maximum, c'est la base, et ensuite les réutiliser le plus possible. Et c'est dans cette logique-là qu'on a mis en place la consigne, qui est un système tout à fait... rare, on va dire, dans notre secteur encore, c'est dans toutes les commandes que l'on envoie, parce que nous, on est essentiellement, beaucoup vendu sur notre site internet holution.com, eh bien, on met une enveloppe T prépayée, d'accord ? Et donc, notre communauté, nos utilisateurs, lorsqu'ils ont fini d'utiliser leur flacon, ils nous le renvoient vide pour que nous les fassions nettoyer, désinfecter, et que nous les re-remplissions et lui donnons une nouvelle vie.
D'accord.
Ça, c'est vraiment dans cette logique de diminution des déchets. Et les tubes qui, eux, on ne peut pas re-remplir un tube. En revanche, on les envoie pour se faire upcycler. Ça veut dire transformer, par exemple, en meubles de jardin.
Ok, d'accord. D'accord, d'accord. Et Olution, aujourd'hui, est plutôt bien implantée. Donc, tu disais qu'elle était surtout vendue en ligne, mais oui. Tu as aussi des points de vente physiques.
On a des points de vente physiques, différentes, on va dire, chaînes dans le bio, que ce soit évidemment Mademoiselle Bio, Nuo, qui nous suit aussi depuis le début. Enfin, on a vraiment différents... et des boutiques aussi. Ce qui est vraiment très chouette dans la démarche, c'est qu'on a aussi différentes boutiques indépendantes qui sont souvent des jeunes femmes entrepreneurs, et qui ont à cœur de créer un autre commerce, un commerce plus de proximité, basé sur le conseil, et qui sélectionne essentiellement des marques naturelles et engagées.
Et quelles sont les nouveautés à venir ?
Ah, écoute, je travaille de manière très ardue sur le shampoing. Shampoing qui est un produit très compliqué pour nous parce qu'on a toutes les contraintes, c'est-à-dire que il faut comprendre que ce qui mousse dans le shampoing, ça vient de l'huile de palme,
Les
sulfates.
Les sulfates.
Et moi, je m'autorise ni les sulfates, ni les dérivés d'huile de palme, donc autant dire que c'est très compliqué. Et d'autant que c'est un produit très technique en réalité, parce que les gens ont des fortes attentes sur ce produit-là. Et c'est immédiat, tu vois tout de suite si ton shampoing te convient ou te convient pas, parce qu'il y a différents aspects, c'est est-ce que ça s'étale facilement sur les cheveux,
est-ce que ça se rince facilement,
comment est mon cheveu après.
Est-ce que
ça mousse? Non, non. Et en fait, on a des énormes attentes. C'est un produit très qui sous ses airs anodin et techniquement difficile à réussir. En tous les cas, on peut faire un shampoing, mais le réussir et que les gens soient très heureux comme ils sont heureux avec tous nos autres soins, ça, c'est quelque chose qui reste encore un challenge. Oui.
Alors, vis ma vie d'entrepreneuse. Tu t'es lancée toute seule.
Oui.
Tu n'as pas levé un seul centime.
Non.
Comment c'est possible ?
Alors, c'est possible parce qu'en France, on est quand même bien entouré. L'écosystème entrepreneurial est quand même... On a beaucoup de chance par rapport à certains pays où les entrepreneurs ne disposent absolument d'aucune, on va dire, d'aucun soutien.
Ouais, pas d'organisme. Donc,
voilà, moi, depuis les débuts, voilà, j'ai été entourée... ça s'appelait à l'époque le Centre francilien pour l'innovation, qui avait détecté le projet dans toute sa dimension innovante et un peu... voilà, qui cassait les codes.
Disruptive.
Voilà, disruptive. J'ai candidaté au réseau Entreprendre Val-de-Marne dans mon département et qui a toujours été un immense soutien et qui continue jusqu'à, voilà, encore récemment, me soutiennent. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument précieux pour un entrepreneur. Et puis, bien entendu, je l'ai évoqué, l'ADEME nous a aidés dans notre projet, la BPI nous a aidés dans notre projet. Donc, c'est vrai que Ça a vraiment été important. Puis, bien entendu, le partenaire, on va dire, incontournable de tout entrepreneur, c'est le banquier.
Oui. Donc, voilà. Monsieur le banquier, si tu nous... ou madame.
Voilà, voilà.
Si tu nous écoutes.
C'était la première bancaire, parce que j'ai fait des demandes, évidemment, d'emprunt en tout genre. Et la première personne qui m'a vraiment écoutée, qui a prêté sérieux à mon projet, c'était une femme. Et voilà, elle a... C'est mon premier prêt, c'était... et du coup, je suis restée fidèle à la banque en question parce qu'ils ont cru en moi, en le projet. Et c'est vrai que c'était pas évident, parce qu'en plus, quand je disais que je voulais vendre des produits en ligne, en cosmétique, si tu veux, en début d'année 2010, on vendait beaucoup des billets de train, des billets d'avion. Ouais. Et c'est ce qu'une de mes banques a répondu, qui est ma banque perso, une banque éthique, m'a dit, écoutez, nous, on fait que de l'e-commerce, mais sur du tourisme.
Service, quoi.
Voilà, du service, tout. Et j'ai dit, bon, voilà. Donc, c'est vrai que c'était pas forcément évident à l'époque.
Ouais, j'imagine. Et qu'est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui ?
Je dirais que moi, j'aime mon parcours parce que c'était un parcours de puriste. C'était un parcours qui m'a profondément passionnée parce que, en soi, lancer une énième marque de cosmétiques, des marques de cosmétiques, il y en a des super, etc.
Ouais, mais en 2010.
En 2010.
C'était quand même moins répandu.
C'était moins répandu. Et si tu veux, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'ouvrir un chemin. D'élever, je parle tout le temps de ça, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est d'élever le standard. Dire, ok, on peut faire 95, c'est super bien avec le bio et tout, mais moi, pourquoi pas dire, on va jusqu'au 100. Donc, c'est toujours de repousser un peu les limites, de questionner, de se poser des questions. Pourquoi on fait comme ça? Pourquoi on fait pas différemment? Moi, c'est ça qui m'a plu dans mon aventure. Alors, elle a été ce qu'elle a été. Et c'est vrai que c'était une aventure moins centrée sur la réussite économique que sur la réussite de nos formules, sur le contentement de nos clients. Et voilà, mais elle a une sincérité, une authenticité et j'espère une portée sur le long terme qui, à mon avis, fera la différence.
Et t'es toute seule, hein ? T'as pas d'associé?
Alors, non, non, je n'ai pas, je n'ai pas d'associé.
Ouais. Depuis le début?
Depuis le début, oui.
Respect.
Heureusement, j'ai une super équipe.
Oui,
ça,
voilà.
C'est ça qui est vraiment, qui te tient au quotidien, parce que c'est vrai que c'est 12 ans d'entrepreneuriat, c'est moi, et je te l'ai dit, je ne suis pas une grande sportive, mais je me compare souvent d'une certaine façon à une marathonienne.
Ouais, carrément.
C'est vraiment, tu as cette nécessité d'avoir un mental. Parce qu'au final, je pense que le marathonien, il termine... Bon, évidemment, t'as les jambes, mais c'est la tête.
Mais c'est la tête, bien sûr. Tous moment, les marathoniens te le disent.
Voilà, hein. C'est... Parce qu'à un moment, tu te retrouves au mur, là, des 20 et quelques kilomètres. Ouais. Et là, tu dis, non, je vais jamais y arriver, c'est pas possible et tout. Et donc, c'est exactement ce à quoi on est confronté tous les jours en tant qu'entrepreneur. Tu as constamment des portes qui te claconnent. Tu as constamment des déceptions, tu as des très bons moments. Mais voilà, c'est les montagnes russes émotionnelles.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et faut être résistant à ça parce que c'est usant.
Ouais, clairement. Et c'est un peu les conseils que tu donnerais aux entrepreneurs qui veulent se lancer, quoi.
Bah, je dirais que c'est d'aller voir aussi, par exemple, des réseaux comme le réseau Entreprendre. Déjà, c'est super parce que tu rencontres d'autres entrepreneurs.
T'es pas seule.
Voilà, quand tu ne connais pas et que tu débutes dans un projet, c'est sympa dans son département d'aller voir d'autres chefs d'entreprise, même de secteurs complètement différents. T'as des bonnes conversations, ils ont souvent eu les mêmes problèmes que toi sur des problèmes de gestion, etc. Et c'est vraiment chouette d'échanger, t'as toujours des bons conseils. Et puis c'est un réseau de soutien presque psychologique parfois. Donc et des belles amitiés peuvent se créer de surcroît. Et donc voilà, c'est vraiment de chercher quels sont les groupements d'entrepreneurs sympas, proches de chez toi, si tu veux, pour avoir on va dire, parce que c'est vrai que quand on commence, tu vas beaucoup parler à tes amis, ta famille, mais s'ils sont dans un autre contexte, plus, on va dire, salarié ou dans la fonction publique, ils vont plus avoir de mal à comprendre certains de tes problématiques.
C'est clair.
Ou alors, tout simplement, ils n'ont jamais été confrontés.
Voilà,
donc, ils sont d'hyper bonne volonté, mais ils ne peuvent pas forcément te répondre à tes questions.
Et comment est-ce que tu vois l'évolution de la cosmétique française ?
Moi, je pense qu'on a la chance d'avoir un magnifique paysage hyper varié. On est quand même un pays qui, en termes de cosmétique, continue d'être un leader mondial. Ça, c'est quand même... on peut en être super fiers. Donc, on est encore aujourd'hui, la beauté française rayonne partout. Donc, moi, je la vois continuer, j'espère, d'être... un modèle pour le monde entier, et j'espère même un modèle non seulement dans l'élégance, dans le chic, dans le côté des super galéniques, les beaux packaging et tout, mais aussi avec des formules impeccables qui soient 100% naturelles. Je rêve du moment où en fait on n'utilise que du 100% naturel, ou si on utilise du synthétique, c'est plutôt à petites touches pour certaines choses, mais pas que ce soit la base. Donc ça, c'est continuer d'avoir une belle cosmétique française qui rayonne partout.
Merci beaucoup, Anne-Marie.
Merci, Chantal, avec grand plaisir.
C'est déjà terminé. Le temps passe si vite. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et puis, parlez de Beauty Toaster à au moins 2 personnes de votre entourage. Ça m'aiderait énormément. Enfin, n'oubliez pas, désormais, on se retrouve tous les vendredis, première heure. Alors, à la semaine prochaine !